Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Bienvenue au Centre Pompidou et à la BPI pour cette rencontre. Depuis quelques années déjà, le mode de vie zéro déchet a le vent en poupe. L'envie est grande de s'y mettre et de réduire les déchets pour contribuer à la diminution de ces déchets sur la planète. Mais comment s'y mettre et comment s'y mettre à différentes échelles, tant individuelles que collectives aujourd'hui ? Quelles sont les personnes qui se mettent dans cette démarche ? Est-ce vraiment possible au quotidien ? Nous vous proposons ce soir, lors de cette rencontre « Le zéro déchet, pourquoi pas moi ?», de faire la liste des solutions possibles avec l'association Zero Waste Paris et de découvrir que de multiples solutions existent, à la fois simples, économiques et enthousiasmantes. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour cette rencontre Margot Calon, chargée de communication et de médiation scientifique au CNRS, bénévole à Zero Waste, Tristan Duhamel, fondateur de Déclic écologique, conseil enthousiasmant pour les entreprises et membre actif de Zero Waste, Odile Podpovitny, artiste et auteur du blog Comme un gardon, consacré au mode de vie durable, et Anne Le Guéniou qui anime le blog Anne et le zéro déchet et propose une activité de conseil en zéro déchet. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonsoir. Renaud, ça y est, bravo, ça y est. notre visuel n'était pas encore en vue. Bienvenue à la BPI et merci à la BPI de nous accueillir. On va vous parler de zéro déchet. C'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur et nous tenons d'abord à vous préciser que c'est une dynamique bienveillante. Elle s'inscrit comme ça dans un état d'esprit où on souhaite avant tout que les personnes intègrent cela de manière enthousiasmante. Et c'est pour ça qu'on vous a montré ce petit schéma qui est quelque chose qu'on aime beaucoup à Zero Waste. On va vous parler pas mal de Zero Waste France, de Zero Waste Paris, de tout cet écosystème qui est le nôtre. Et ce sera surtout l'occasion d'emmener vers différents sujets qu'on traitera les uns et les autres. Donc cette bienveillance, c'est également l'enthousiasme de faire des choses et de s'apercevoir que quand on réalise un petit geste qui va, quand on va changer un geste négatif pour la planète et que celui-ci va se transformer en geste positif, ça va créer de la satisfaction. Et donc, ça fait partie de cet enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est aussi chez Zero Waste une façon de fonctionner qui est vraiment sympathique et qui donne tout à fait de l'entrain. Alors, un petit moment de passé, c'est le préfet Poubelle qui, en 1883-1884, décide, pour hygiéniser la France, d'enfermer les déchets dans des poubelles avec un couvercle comme ça. Et c'est comme ça qu'il va donner son nom à l'ustensile poubelle. Et c'est assez intéressant de voir ceci parce que à partir de ce moment-là, jusque-là, en fait, les déchets étaient réutilisés. Alors, c'était pas très propre, hein, ça sentait pas très bon en général, mais la plupart des déchets étaient réutilisés. Avec les eaux, les uns récupéraient les eaux, faisaient de la colle et des tas d'autres choses. Avec les tissus, on faisait des papiers. Et en enfermant ces déchets, ça a été le début donc de l'externalisation en quelque sorte des déchets et aussi une notion j'ai vraiment percuté avec ça sur une histoire intéressante. Je suis allé au Sénégal il y a quelque temps Et au Sénégal, il y a peu ou pas de collecte de déchets. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit à quel point les déchets sont là. Et les déchets sont là, et on s'aperçoit à quel point, chez nous, ils ne sont plus là. On ne les voit pas, c'est-à-dire que dès qu'on a mis le couvercle sur la poubelle, c'est terminé, on ne s'en occupe plus, et ils partent, et on ne sait en général que peu de choses là-dessus. Donc, pourquoi les déchets sont un problème ? Eh bien, c'est dans leur devenir, évidemment. Alors, je ne sais pas si parmi vous, je suis sûr que vous avez des idées, vous savez ce que deviennent les déchets. Je ne parle pas des déchets triés. Tout ce qui est recyclé, on y reviendra. Mais je parle des ordures ménagères qui restent, la poubelle grise, les ordures résiduelles. Savez-vous ce qu'elles deviennent en France ? Est-ce que vous voulez le dire, si vous le savez, les uns ou les autres ? Oui, incinéré et enfoui, absolument. Ce sont les deux choses. Et donc, du coup, on dit souvent enfoui, voilà, ben c'est ça. En fait, ce sont des décharges qui sont à ciel ouvert. En France, on dit centre d'enfouissement, mais c'est à ciel ouvert. Il y a les animaux, enfin les oiseaux qui volent, les plastiques aussi, etc. Et l'incinération, c'est de la même manière une façon de détruire des déchets. Alors pourquoi c'est polluant ? Si on en revient à la décharge, eh bien la décharge, on va accumuler, bon, avant tout évidemment, se débarrasser comme ça de toutes ces matières, c'est pour nous quelque chose d'absurde parce qu'il y a beaucoup mieux à faire que de les détruire. Les décharges sont polluantes parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des jus de décharge notamment, et il va y avoir de la création de CO2, de la création de méthane, ça va polluer l'air, il va y avoir des jus de décharge qui vont s'infiltrer et qui vont aller polluer la terre et l'eau. Et l'incinération, on nous présente ça parfois comme une solution de valorisation, mais on commence par détruire toute cette matière. On la détruit. Parfois, il faut même rajouter du combustible, parce qu'il y avait un documentaire que j'avais trouvé très intéressant aussi, qui commençait par quelqu'un qui brûlait une peau d'orange. Et il disait, mon briquet va y passer. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, brûler une peau d'orange, c'est très compliqué. C'est fait de 80% d'eau pour, évidemment, tous les biodéchets, les déchets des restes de repas et autres. Et donc, c'est vraiment une solution qui n'est pas intéressante, d'autant plus que nous avons une petite vidéo qui va nous le dire précisément, et après une image.
Aujourd'hui en France, un tiers de nos déchets sont brûlés. L'incinération nous est présentée comme une technologie propre et compatible avec l'économie circulaire. Brûler des déchets, c'est détruire des ressources. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Comment faire ? ZeroWasteFrance.org.
Merci. Donc une petite vidéo pour montrer l'incinération, pour les méfaits de l'incinération. Il faut savoir que quand on brûle comme ça la matière, eh bien, au bout du compte, il reste encore des cendres qu'on appelle les mâchefers. Et pour une tonne de déchets brûlés, il reste 300 kilos par tonne de mâchefers. ces mâches fer, avant, on les mettait sous les routes pour combler comme ça. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est polluant, donc on commence à éviter de le faire. Et l'incinération produit des fumées. Donc, on va filtrer ces fumées. Et pour les filtrer, on va les récupérer des boues. Et ces boues sont hautement toxiques, elles s'appellent les refiomes. Et là, ça produit à peu près 50 kilos de refiomes par tonne de déchets brûlés. Et qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ? Eh bien, on les enfouit. Donc, voilà, on y revient et on est une fois encore là pour parler ensuite des solutions qui vont être un peu plus rigolotes que ces chiffres qui sont un peu durs, mais qu'il faut connaître. Alors, en France, nous avons 250 décharges et 130 incinérateurs. C'est l'occasion de faire un petit crochet par l'incinérateur d'Ivry. Parce que parmi vous, certains voient les deux cheminées qui sont celles de l'incinérateur d'Ivry, un peu plus loin, du côté de la porte d'Ivry. Eh bien, cet incinérateur arrive en fin de vie et Zero Waste se bat avec le collectif 3R contre la reconstruction de cet incinérateur qui va devenir surdimensionné puisque tout converge vers le zéro déchet. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a rien à y faire et ça continue d'aller dans ce sens. L'incinérateur continue d'être en prévision malgré les combats menés pour que ça se passe autrement. Donc, je vous invite notamment à vous pencher là-dessus parce que ça nous concerne tous, au niveau de la pollution, au niveau des impôts également. Et on a tous la possibilité d'agir à ce niveau-là, au niveau de nos élus en Île-de-France, pour faire passer notre message. Alors, un petit point sur la quantité des déchets en France. Aujourd'hui, alors c'est des chiffres de l'ADEME qui ne sont pas tout jeunes, mais qu'on utilise toujours parce qu'on n'est pas vraiment plus récent. Il y a à peu près 345 millions de tonnes de déchets par an. Et là-dessus, il faut compter à peu près 70% pour la construction. Donc évidemment, la construction, c'est lourd, ça fait beaucoup de déchets. Et je ne sais pas si vous avez vu des bennes de construction, mais c'est assez terrible parfois. Maintenant, les choses changent. Il y a aussi des acteurs qui interviennent pour la déconstruction et pour faire vraiment avancer des choses. On parle ce soir davantage de déchets ménagers et ça représente quand même à peu près 34 millions de tonnes de déchets, rien que les ménages en France. Pour finir sur ces chiffres, la poubelle des Français, en moyenne, fait à peu près 600 kilos. Sur ces 600 kilos, une fois qu'on a enlevé tout ce qui se recycle, les déchets verts, etc., on arrive à la poubelle verte, en tout cas à Paris, elle est verte, comme ça. Et dans cette poubelle, on trouve encore un tiers de matière biodégradable. Donc c'est quand même énorme. Et il faut savoir que ce sont des matériaux qu'on peut très facilement valoriser autrement. Alors en appartement, on peut considérer que ce n'est pas toujours facile, mais il y a des tas de solutions. Il y a des solutions de compost, ça passe par le compostage, par le lombricompostage, qui se fait avec des petits verres. Je ne sais pas si on va en parler de ça ce soir.
Bah, pas trop en détail, ce serait très long.
Comment ?
En détail, ce serait long,
mais ouais. On peut l'évoquer. Mais donc, le lombricompostage, par exemple. Pour parler du plus large au plus petit, il peut y avoir des composts de quartier, des composts en pied d'immeuble. Là, certains arrondissements de Paris sont en train de mettre en test la collecte de biodéchets. Et en allant jusqu'à l'intérieur des maisons, on peut avoir donc ces lombricomposteurs qui marchent très très bien dans les caves par exemple ou sur un balcon. Et ce sont des petits vers qui vont se régaler de tout ce que vous allez ne pas manger, de tout ce que vous allez mettre à la poubelle comme biodéchets. Et on peut voir qu'il reste encore sur ce schéma des tas de choses qui sont soit mal triées, soit qui ne sont pas triables. Et donc, malgré tout, encore beaucoup de progrès à faire pour réduire tout ça. Et c'est là que je vais passer la parole à Odile.
Bonsoir. On va d'abord regarder une vidéo de Greenpeace qui raconte l'histoire d'une petite cuillère. On va lancer la vidéo, s'il vous plaît.
4.5 billion years ago, a giant molecular cloud collapses in space, setting free a solar nebula out of which a planet is born, Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals, they all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid, oil. Humans arrive, and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid, and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open, and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers around the world they go. Liquefied, they're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box, and the box is put on a pallet, and the pallet is put into a container, and the container is put on a truck, and the truck drives to a port, where the container is put on a ship, and ship, the spoon arrives 6,000 kilometers around the world, where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store, where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room, where it sits for 2 months until you select it and pay for it with the money you've worked hard for, and you drive the spoon home, which is where you are standing right now, with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash?
Voilà, la chute est originale et je me demandais justement si parmi vous il y avait quelqu'un qui n'avait jamais utilisé ce genre d'objet dans sa vie. Il peut lever la main. Non, en fait c'est assez rare. Pour illustrer cette vidéo, illustre ce qu'on appelle le sac à dos écologique. Donc je vais passer un slide avec une petite illustration. Le sac à dos écologique, c'est l'impact réel et total de notre produit. C'est intéressant de se rendre compte que, en général, ce qui est le plus impactant et le plus lourd environnementalement est justement ce qui est totalement invisible à nos yeux de consommateurs. Quand on parle de déchets, on a tout de suite en tête l'idée de la fin de vie du produit. On pense à la panne, à la casse. Mais on ne pense pas que les déchets naissent en amont de la vie du produit, la vie qu'on va avoir avec notre objet. En réalité, pour que le produit existe, avant même son existence, de nombreux déchets sont générés et d'immenses ressources ponctionnées. On sait que chaque Français produit 590 kilos de déchets. 590 kilos, ça va au-delà de ce que vous avez vu dans la poubelle que Tristan commentait tout à l'heure. Ça comprend les ordures ménagères résiduelles, donc tout ce qui n'est pas dans nos poubelles de tri, mais aussi les dépôts faits en déchetterie. Mais en sus de ces 590 kilos, ce sont réellement 14 tonnes de déchets qui sont produits par an et par habitant, qui correspondent donc aux déchets cachés, ce qui illustre cette petite vidéo. Et au-delà même de ce que nous jetons, on estime notre train de vie à 50 tonnes de ressources ponctionnées par an et par habitant en France. Donc notre train de vie est extrêmement dispendieux et c'est tout à fait intenable de continuer à consommer ainsi. Je pense que tout le monde a entendu parler de la date du dépassement, parce que c'est maintenant quelque chose dont on parle pas mal dans la presse. La date du dépassement, c'est donc le jour où les humains ont achevé de consommer l'ensemble des ressources qui étaient disponibles pour une année, de ressources que la Terre pouvait nous servir en un an. En 1986, on était encore au 31 décembre, donc tout allait formidablement bien. En l'an 2000, on est passé au 1er novembre. En 2018, c'était le 1er août. Mais il faut savoir que si chaque humain vivait comme un Français, cette année, ça aurait déjà été le 5 mai. Le 5 mai. Ce qui veut dire qu'en 4 mois, nous consommons la totalité, enfin la somme totale et maximale des ressources que l'on pourrait consommer en une année. Et il faut donc peut-être revoir notre mode de vie. Pour expliquer ce qu'est le sac à dos écologique, il faut se représenter ce qui se passe en amont de la vie du produit. Donc pour chaque objet de notre vie que nous pouvons consommer un certain temps ou vouloir acheter ou posséder, il y a en amont toujours extraction de ressources. Ces ressources, elles peuvent être renouvelables ou non. Il s'agit très principalement de pétrole, de charbon, mais ça peut être aussi de l'eau, du bois ou des minerais. Après, ces ressources doivent être transformées. Et là encore, on consomme beaucoup de ressources, en général de l'énergie ou d'eau, ou de l'eau, beaucoup d'eau. Les process industriels sont très très gourmands en eau et, comme vous le voyez, pour produire un kilo de coton, il faut 3800 litres d'eau. Pour un kilo de viande de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau. Pour un litre de carburant, 7 litres d'eau. Donc tout ça, ça consomme énormément de ressources en amont donc, de notre produit pour leur transformation. Après tout ça, donc, l'objet doit être emballé, conditionné. Et quel qu'il soit, il y a toujours du plastique à cette étape-là. Que l'emballage soit un contenant individuel pour notre objet ou que ce soit des palettes qui seront filmées, il y a toujours du plastique. Et ce plastique, en tant que tel, il a lui aussi sa propre empreinte environnementale, donc qui s'ajoute encore. Puis notre objet doit rejoindre le lieu de sa rencontre avec le consommateur. Et là, il va voyager. Il va assez souvent venir de très loin, par voie maritime, terrestre ou même aérienne quelquefois. Enfin, arrivé à destination, il devra être stocké. Et ce stockage sera encore consommateur de ressources. Le stockage, c'est dans un bâtiment en plein qui est entretenu, qui est réfrigéré ou chauffé. Et là encore, on consomme des ressources. Donc à ce stade-là, enfin, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo de Greenpeace, il faut vraiment avoir un besoin impétueux de cet objet ou qui nous fasse fabuleusement plaisir pour désirer encore le posséder à ce prix. Voilà, donc maintenant qu'on a en main cet objet neuf, ce bel objet, on va essayer d'en faire bon usage. Et malheureusement, la durée de vie de nos objets va se raccourcissant, terriblement. Et il ne s'agit pas toujours d'obsolescence programmée, il s'agit assez souvent, même typiquement, d'un désordre comportemental. L'altération esthétique, la lassitude quand la mode va changer, une réparation trop onéreuse ou trop complexe, alors on jette. C'est notre geste qui crée le déchet. On sait qu'en moyenne, les ressources ponctionnées à notre planète deviennent déchets en 42 jours. Donc, on prélève des ressources, a lieu tout ce que j'évoquais, ce que vous avez vu dans la vidéo, puis 42 jours plus tard, en moyenne, on se retrouve avec un déchet. C'est donc un immense gâchis. Donc maintenant, je vais évoquer plus particulièrement le problème du déchet plastique. Qui est une catégorie de déchets assez particulière et assez problématique. 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde. Et je regarde mes chiffres parce que je ne suis pas une fille de chiffres, j'ai peu de mémoire. 10 tonnes donc, de plastique sont produites chaque seconde dans le monde et une tonne finit toutes les 2 secondes dans l'océan. C'est relativement peu au regard de ce qui finit dans nos sous-sols. Mais ce plastique dans nos océans ne va pas rester intact. il va être altéré par l'iode, les UV, l'eau et se fragmenter. Il va devenir d'infimes particules et ces particules seront ingérées par les oiseaux, par les poissons et vont contaminer l'ensemble de la chaîne alimentaire. On imagine que ce plastique qui finit dans les océans est le fait de personnes négligentes ou qui se débarrasseraient inconsidérément de leurs déchets dans la nature. Mais ça peut être aussi notre cas à notre insu. C'est pourquoi éviter le déchet plastique est primordial quand on veut protéger l'environnement. On a beau être extraordinairement évolué et on est totalement connecté à notre milieu. On l'oublie parce que l'on vit dans des appartements, l'eau coule du robinet à notre demande, elle s'échappe dans les canalisations, on ne voit rien de tout cela. Mais malgré tout, si dans nos toilettes, nous jetons un objet plastique, un applicateur de Tampax ou une petite chose en plastique, ce déchet va emprunter les canalisations, rejoindre le tout à l'égout, puis la station d'épuration. Dans la station d'épuration, en principe, les éléments sont filtrés par un système de grilles. Mais les jours de pluie, quand la pluie est abondante, les réserves d'eau arrivent vite à saturation et peuvent déverser et notre objet passer les barrières mécaniques, les barrières matérielles. Ainsi, se retrouver dirigé vers les cours d'eau naturels et rejoindre enfin les océans. Donc, dans certaines zones des océans, on compte 5 fois plus de plastique que de plancton, dans certaines zones pour l'instant. Mais d'ici 2025, les scientifiques prédisent qu'il y aura dans les océans plus de plastique que de poissons. Donc, comme je vous le disais précédemment, les poissons ingèrent ces microparticules de plastique et nous finissons par manger les poissons, enfin, quand on est omnivore. Et donc, nous mangeons nos déchets. Voilà, je mange vos déchets, vous mangez les miens, donc tout est merveilleusement redistribué, mais pas très ragoûtant. Le problème est qu'on utilise justement le plastique pour produire des emballages, des emballages à usage unique, des objets jetables ou des choses de peu de valeur dont on va se séparer facilement, alors que le plastique est précisément une matière qui ne disparaît jamais. Pour vous donner encore un chiffre, 5 millions de tonnes d'emballages à usage unique sont distribués chaque année sur les marchés français, les marchés là où nous allons faire nos courses. 5 millions de tonnes d'emballages à usage unique, ce sont typiquement des barquettes, du film étirable ou des sachets. Alors que faire ses courses avec des petits sacs en tissu, venir avec quelques bocaux, des boîtes en inox ou un cabas, c'est vraiment extrêmement simple. Donc ça fait déjà 5 millions de tonnes qu'on pourrait éliminer tout de suite. Alors là, on va parler de recyclage, parce que si on continue à consommer avec autant d'enthousiasme, c'est aussi parce que l'on nous y encourage en nous disant qu'il n'y a pas de mal, on peut consommer, puisque tout ça sera recyclé. Mais en réalité, rien n'est moins fantastique que le recyclage du plastique. Les pays d'Europe qui ont le meilleur taux de recyclage du plastique sont la Norvège et l'Allemagne, et leur taux est de 40%. Alors, on nous promet, en France, passer à 100% de recyclage des plastiques à l'horizon 2025. Actuellement, je ne sais pas si vous savez quel est notre taux de recyclage des plastiques. On n'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est 40, donc c'est moins de 40. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Ouais, c'est 22. Donc, c'est vraiment très, très peu. Alors, pourquoi ? Donc, tous les plastiques ne se recyclent pas. Il y a 7 catégories de plastiques. Alors, les plastiques, on peut les identifier parce que souvent, en dessous de l'objet ou sur l'emballage de l'objet, figure un chiffre, donc de 1 à 7, que vous voyez dans un logo de forme triangulaire fait de 3 flèches. Et parmi ces 7 catégories de plastiques, nous sommes en capacité de n'en recycler que 3 pour l'instant. Donc déjà, on ne peut pas recycler 100% des plastiques que nous possédons, utilisons. Ensuite, parfois les plastiques sont trop complexes lorsque les déchets sont hétéroclites. C'est typiquement le cas des gourdes de pompotes ou des blisters de médicaments. Enfin, quand un plastique est thermocollé avec de l'aluminium. Cette année, ce que je vois dans les caniveaux proches du collège dont je suis voisine, c'est cette boisson qui s'appelle Capri Sun. Voilà, ça fait des ravages dans les collèges cette année. C'est donc du plastique thermocollé avec de l'aluminium. Les enfants boivent ça. En plus, il y a une paille. Ils jettent ça dans le caniveau. Donc ça, c'est un déchet dont on ne pourra jamais rien faire. Ça partira à l'incinérateur. Et il y a aussi donc le problème de, quand l'objet dont on souhaite se séparer ne répond à aucune consigne de tri. Puis évidemment, il y a le refus de tri, le dépôt sauvage, enfin, etc. Donc, il n'aide pas. En sus de tout ça, le recyclage du plastique, enfin le cycle de recyclage du plastique n'est pas infini. On peut recycler le plastique une fois, deux fois, peut-être un peu plus, mais à chaque cycle de recyclage, il faut réincorporer des matières neuves. Donc en France, actuellement, sur l'ensemble des produits mis sur le marché, l'ensemble des produits plastiques mis sur le marché, le total des matières d'origine recyclée s'élève à 6%. Donc c'est très peu. Donc quand bien même on recyclerait 100% de nos plastiques, ce serait un aspirateur à la consommation et ça encouragerait à produire toujours plus de plastique, consommer toujours plus de plastique, sachant que le plastique est toujours un déchet en sursis. Alors, le troisième point, c'est le... Oui, pardon ? Je sais pas si j'ai le droit de poser une question. Oui, sur les 7. Alors, je vais passer en tête parce que les noms font 10 syllabes et je ne les ai pas mémorisés. Mais si l'info vous intéresse, donnez-moi votre mail tout à l'heure et je vous donnerai ça. Il n'y a pas de problème. Donc, d'un point de vue comportemental, pourquoi le jetable s'est tellement imposé dans nos vies ? Tout à l'heure, vous m'indiquiez vous-même que ça ne vous était pas arrivé de... Enfin, personne ici n'avait jamais utilisé de petite cuillère jetable. Donc, le jetable... assez souvent, enfin même pratiquement toujours, économise un effort humain. Il économise le lavage, le transport et même parfois l'anticipation. Si, par exemple, un automobiliste s'apprête à un long voyage et ne prend pas avec lui sa lunchbox, il va fatalement devoir déjeuner dans une station-service où on lui servira que des déchets emballant de la nourriture, des chips, des sandwichs dans du plastique en triangle, enfin des choses effrayantes. De la même manière, si on sort de chez soi sans sa gourde, on sera probablement amené à acheter durant la journée une bouteille d'eau ou une boisson dans un distributeur. Ou cherchant ses enfants à l'école, les mains dans les poches, on s'expose à l'achat de friandises ou de biscuits suremballés. Donc l'anticipation, c'est quelque chose, c'est un élément clé du zéro déchet. Dans la vie, on cherche tous, presque tous, enfin, j'imagine, le confort et le plaisir. On nous a dit que le jetable allait nous combler, et je pense que c'est totalement faux. Donc, je vais vous parler d'un objet qui m'accompagne depuis assez longtemps, c'est ma petite cuillère. Enfin, je trouvais sympa de rebondir sur l'histoire de la cuillère, parce que moi-même, j'ai une grande histoire avec cette cuillère. Donc cette cuillère, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte quand j'ai emménagé dans mon premier appartement, donc avec une ménagère de très jolis couverts en argent. Ma grand-mère est née en 25 et elle a toujours connu cette cuillère, donc je pense que cette cuillère doit avoir une centaine d'années. Alors je l'ai depuis 20 ans dans mon sac à main. Alors il y a 20 ans, j'étais déjà une fille qu'on peut qualifier d'écolo parce que j'ai toujours mangé bio, frais. J'ai été toujours regardante quant aux cosmétiques que j'utilisais, que je choisissais sains. Et puis par ailleurs, je suis végétarienne. Mais je n'ai pas du tout de fierté à tout ça parce que mes parents sont encore pires que moi. Donc cette cuillère, je l'ai toujours eue dans mon sac à main, mais je ne pensais pas aux déchets à cette époque-là. Simplement, cette cuillère m'apporte un supplément de plaisir. Et puis c'est vrai qu'il y a 20 ans, on distribuait moins facilement chez les commerçants les couverts en plastique que maintenant. Donc cette cuillère, avec moi, on a voyagé, elle a été complice de pique-niques improvisés, de fringales, elle a nourri des bébés. Voilà, donc c'est une cuillère dont je ne me séparerai jamais, elle me survivra probablement. Donc lorsqu'on choisit de s'accompagner d'objets durables à la fin de vie vertueuse, on va évidemment alléger incroyablement son empreinte environnementale, mais on va aussi rendre sa vie incroyablement plus belle. Quand on adopte un objet, enfin c'est mon opinion, je pense qu'on devrait se demander toujours si cet objet va nous apporter une joie, une satisfaction véritable ou de l'embarras. À mon sens, gérer un déchet est toujours quelque chose de problématique. Ne serait-ce que descendre sa poubelle. Je pense que ça ne fait plaisir à personne de descendre sa poubelle. Le local est malodorant, la poignée poisseuse, il y a des mouches en été. C'est jamais une partie de plaisir. Dans la même veine, devoir sans cesse racheter, dépenser encore, reprendre ses marques avec un nouvel objet, ce n'est pas une source de plaisir. Et ces objets jetables qu'on va renouveler sans cesse, mais ne seront jamais nouveaux. Donc en fait, du neuf, on n'aura que les frais et pas le plaisir. Donc je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc quand on vit zéro déchet, on va toujours à l'essentiel. On imagine sa vie autrement que comme un sillage de déchets que l'on va laisser en passant. Donc en choisissant des objets durables, qui vont nous accompagner, auxquels on va s'attacher, on peut avoir un impact véritable et écrire une histoire, une belle histoire avec des objets auxquels on s'attache. Voilà. Je vais passer la parole à Anne qui va vous donner des informations sur comment mettre tout ça en œuvre.
Bonsoir. Alors, quelle solution pour tout cela? Donc, la slide après. Il y a une méthode qui est proposée, c'est la méthode des 5 R. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la méthode des 5 R dans la salle? Alors, on peut y en avoir 3, 5, 6. Et c'est une méthode qui est expliquée par Beat Johnson dans son livre « Zéro déchet ». Et alors, elle les propose dans cet ordre-là, à mettre en pratique dans l'ordre, et ça permet d'engendrer naturellement très peu de déchets. Les deux premières, refuser et réduire, ça concerne la prévention des déchets. Le troisième, c'est la consommation responsable. Et les deux dernières, le traitement des déchets. Alors la première étape, c'est refuser. Alors des fois, ça fait débat. C'est refuser ce dont nous n'avons pas besoin. Alors c'est une règle essentielle et ça n'a pas pour but de nous isoler socialement, mais de nous faire réfléchir aux décisions que nous prenons au quotidien. Il faut simplement apprendre à dire non. Et c'est de l'affirmation personnelle, c'est choisir sa consommation. Quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Et donc, c'est une démarche positive. Moins nous faisons entrer des objets chez nous, moins nous avons à désencombrer. Donc, cette première règle, ça concerne les objets superflus, évitables, que l'on nous donne sans avoir rien demandé. Donc, les objets jetables, les sacs en plastique, les couverts en plastique, les cadeaux publicitaires gratuits, parce que même s'ils sont gratuits, ils ont un coût écologique. Alors la deuxième étape, c'est réduire ce dont nous avons besoin et que nous ne pouvons pas refuser. Donc réduire et repenser sa consommation à l'essentiel, ça permet de privilégier la qualité à la quantité. La troisième étape, c'est réutiliser ce que nous consommons et ne pouvons ni refuser ni réduire. Alors utiliser, là, c'est assez vaste comme domaine. C'est utiliser plusieurs fois le produit sous sa forme manufacturée d'origine afin de maximiser son utilisation et de prolonger sa durée de vie. Cela permet d'économiser les ressources que l'on perd lors du processus de recyclage. C'est échanger tout produit jetable par son équivalent réutilisable ou rechargeable. Et c'est aussi participer à l'économie collaborative, les trocs, les échanges, les emprunts, de particulier à particulier, donc il y a les outils, les perceuses qui se prêtent, les maisons, les voitures, les bureaux même. C'est aussi acheter malin en prenant des produits éco-conçus qui soient réparables, rechargeables, durables. Et réutiliser, c'est aussi réparer. Quand on casse un objet, prendre le temps d'appeler le fabricant, de regarder le mode d'emploi, d'aller chez le cordonnier. Donc, ça, c'était la troisième étape. Donc, quand on fait bien ces étapes, normalement, il ne reste plus grand-chose à recycler. On l'a vu dans les interventions de Tristan et d'Odile que le recyclage, c'est un peu contesté. Alors, c'est évidemment indispensable. Quand il reste à ce stade des objets à recycler, c'est indispensable, mais pas suffisant, c'est du correctif. Surtout pour le plastique, où c'est pas forcément là. Enfin, on n'arrive pas à résoudre le problème puisque le plastique demeure. Une fois qu'il est produit, il demeure, on peut le recycler un petit peu. Et donc le recyclage, on le met bien, bien, bien en bas. Dans l'association, on essaye de mettre bien en avant tout ce qui est prévention. Et donc, la dernière étape, c'est le compostage. Donc, trier ses déchets alimentaires, les composter, ça permet de réduire un tiers des déchets produits par les ménages. Ça produit un compost qui devient, on peut l'appeler l'or noir. Donc, quand on le met dans les potagers, ça fait des miracles. Donc il y a plusieurs solutions pour il y a le compostage, le lombricompostage en appartement et le compostage partagé, et de plus en plus de villes s'y mettent. Là, c'est la tendance. En tout cas, il faut que tout le monde pousse pour que ça aille dans ce sens-là, puisque amener des épluchures à l'incinération, c'est brûler de l'eau. Donc c'est dépenser de l'énergie pour rien. Donc pour plus d'informations, vous avez le site biodéchets.org. Donc, alors il y a cette façon de présenter les 5 R. Il y a une autre façon aussi avec les cercles, où là on peut voir ce qu'on veut mettre vraiment en avant, c'est refuser, repenser. C'est pour ça qu'on peut aller jusqu'à 6 R, parce qu'il y a aussi réparer. Et le recyclage, évidemment indispensable, en bas. Alors déjà, Coluche en parlait sur la consommation, on va l'écouter.
Alors si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère.
Quelle clairvoyance. C'était un petit clin d'œil qui nous plaisait bien de Coluche il y a déjà quelques décennies. On va parler rapidement de l'emploi, parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. Pour vous dire que, grosso modo, les emplois à volume équivalent de travail et de matériaux, il faut par exemple une personne en décharge pour un emploi. Ça équivaut à peu près à 3 emplois dans l'incinération, à 25 emplois dans le tri et le recyclage. Alors que si on voit ça du côté réparation, vrac, développement de toutes les solutions qui peuvent mener vers le zéro déchet, en haut à droite, ce sont des couches lavables, par exemple. Ce ne sont pas les couches de nos grands-parents, ce sont des couches modernes qui sont beaucoup plus faciles à laver qu'à l'époque. Donc de la réutilisation, etc., de la réparation, on est sur 700 emplois, donc quelque chose de bien plus bénéfique pour la société.
Bonsoir. Alors moi, je voulais vous parler de l'événementiel. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de démarches personnelles et puis de déchets domestiques. Et donc, on pourrait avoir tendance à penser que toute cette démarche s'arrête à la porte du bureau. Et ce n'est pas le cas, et j'en ai fait l'expérience. Moi, je m'occupe des événements et de la communication au CNRS, dans un institut, et j'avais déjà commencé ma démarche personnelle à la maison de zéro déchet, jusqu'au jour où j'organisais une grande conférence sur le climat et l'environnement, et que je me suis retrouvée à commander le traiteur et à imprimer des programmes. Et à la fin de la journée, je trouvais ça complètement ridicule d'avoir passé une journée à faire un événement sur l'environnement pour ensuite jeter des dizaines de tonnes de déchets. pas des tonnes, mais voilà. Et ça, ça a été la grande prise de conscience pour moi. Et donc, depuis, je me suis rendu compte qu'on pouvait changer les pratiques. Et que tout ce petit kit de communication qui semblait indispensable jusqu'avant n'était pas du tout indispensable. Donc, ce petit kit de communication, si vous êtes dans ce domaine-là, peut-être que vous le connaissez. Il y a des petites verrines. Il y a des post-it pour faire des ateliers de co-création, design thinking, tout ça, ça c'est cool. Il y a des super badges. Les super badges, on en a tous 10 à la maison qui traînent après avoir fait une conférence. Des super brochures, des gobelets en plastique pour la pause café et des magnifiques posters. Et des bouteilles d'eau pour chaque intervenant, c'est classe les bouteilles d'eau. Ça pour moi, ça c'était le kit parfait. J'avais géré mon événement si j'avais tout ça. Et après cette prise de conscience, j'ai commencé à chercher des alternatives. Zero Waste a fait un guide événementiel. Et donc nous au CNRS, on a décidé, enfin dans mon institut, pas le CNRS encore, on a décidé de l'adapter à nos événements pour éventuellement écrire un guide pour permettre aux autres instituts de faire pareil et pourquoi pas ensuite aider tout le monde. C'est des petites solutions simples que je vais vous donner. Par exemple, les bouteilles d'eau, l'eau de Paris, elle est très bien, des belles carafes, ça suffit, c'est cool. Les posters, en fait, au lieu d'avoir des petits programmes, etc., on peut privilégier tout simplement un seul poster grand format pour informer les gens de ce qui va se passer. Au niveau de la déco, c'est assez bien au niveau d'une entreprise, même une entreprise de com ou un institut, de réfléchir à son identité visuelle, de réfléchir à des supports durables en tissu, en carton qu'on va réutiliser et ressortir à chaque fois, ou même avoir des posters qui soient un petit peu génériques, qui puissent être adaptés. Ça fait économiser et du temps et de l'argent. Ça, c'est très important pour une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple. Les gobelets en plastique, en fait, c'est le recyclage. Juste avoir des produits recyclés ou tout simplement avoir de la vaisselle avec soi. Je suis en train de penser, j'ai pas parlé de l'ennemi numéro un public, c'est les goodies. Alors ça c'est un enfer, les goodies, c'est pas possible. Personne n'en a rien à faire d'avoir un porte-clés. On a tous un bol à la maison avec 1000 porte-clés qui viennent de conférences, c'est pas possible. Et pour remplacer ça, l'idée quand on fait ça, qu'on donne des goodies, c'est qu'on veut donner l'impression que les gens passent un bon moment, impacter, qu'ils se souviennent de nous plus tard, etc. Et ben ça, il y a des moyens de le remplacer. Alors on peut leur offrir des goodies zéro déchet, c'est-à-dire moi j'ai reçu ma gourde à une conférence, j'ai trouvé ça génial. Ça peut être des choses comme ça, des serviettes lavables, tout ça. Il n'y a pas d'entreprise, j'ai cherché, il n'y a pas d'entreprise encore qui fait des goodies zéro déchet. Si vous avez une idée d'entreprise, je vous la donne cadeau. Et on peut aussi, surtout, tout simplement proposer quelque chose d'humain avant. C'est-à-dire un bar à hot dog ou un bar à cocktail, pour l'avoir fait, ça marche aussi bien qu'un porte-clés. Ça fait, entre une pause ou à l'accueil, c'est super sympa et ça impacte. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut remplacer ou avec juste un petit peu d'organisation. Les badges, les stylos, on les donne pas, on les récupère à la fin. Personne va penser qu'on est radin. Ils seront très contents de pas les avoir dans les poches. Les programmes, il suffit juste de demander à l'arrivée aux participants s'ils ont bien téléchargé le programme sur leur portable. Bien sûr qu'ils l'ont téléchargé. Et du coup, ne pas avoir à imprimer tout ça. Mais le gros des déchets, c'est vraiment les buffets. Et ça, on n'y pense pas. Que vous soyez dans l'événementiel ou pas, vous recevrez peut-être vos amis, vous vous marierez peut-être si ce n'est pas déjà fait. Et ça, il existe des solutions. Parce que par exemple sur un congrès international, bon, on parle de quelque chose de très gros, les déchets liés au traiteur, c'est 35 kilos par personne, c'est énorme, parce qu'il y a beaucoup de petits éléments, etc. Et donc pour ça, sur Paris, vous pouvez trouver toute une liste de traiteurs éco-responsables. Alors il faut faire attention, il y en a qui disent qu'ils sont éco-responsables, et en fait ils font juste des trucs en carton. Ça, comme on l'a dit, le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Mais il existe beaucoup d'initiatives, et souvent, elles sont couplées avec du bio, du local, de la réinsertion, etc. Ils sont encore peu nombreux, donc nous, justement, on est en train de faire la liste. Si vous en connaissez, je suis preneuse. Par exemple, pour en citer, je fais de la pub Croc Traiteur, c'est un traiteur qui fait que des vaisselles qui sont récupérées et qui sont en bambou. Mais tout ça, pour faire mes recherches en ce moment, c'est encore une minorité. C'est pas du tout développé, et nous, à l'échelle du CNA, c'est pas des choses auxquelles ils avaient pensé jusqu'à présent. Donc je vous invite également, vous pouvez faire cette démarche individuellement à votre boulot, rien qu'une une réunion de travail. Est-ce que vous commandez des sushis, est-ce que vous avez des gobelets en plastique, etc. La démarche zéro déchet, c'est aussi sur le lieu du travail et pas que à la maison, c'est très important. Voilà.
Merci. Et Zero Waste France a sorti un guide dans la série de ces guides qui s'appelle « Mon événement Zero Waste » où il y a toutes sortes de tuyaux comme ça pour aller dans ce sens. Et ces guides sont téléchargeables sur le site de Zero Waste France, ce qui nous amène à parler de la galaxie Zero Waste. Et oui, car nous sommes en train de devenir une galaxie, dans le sens où Zero Waste France, qui est une association qui a une vingtaine d'années, qui a changé de nom il y a 4-5 ans à peu près pour devenir Zero Waste France, est là pour faire notamment trois missions. La première, c'est du plaidoyer pour faire avancer les lois au niveau français, au niveau européen, voire mondial, y compris en se mettant en relais avec d'autres associations internationales. La deuxième mission, c'est de sensibiliser le grand public. Et la troisième, c'est d'outiller les professionnels qui vont dans le sens du zéro déchet. Zero Waste France est une association qui est très dynamique. Et d'ailleurs, c'est probablement l'occasion on y reviendra pour Zero Waste Paris, mais des groupes locaux ont commencé à se former spontanément il y a 3-4 ans à peu près, et de plus en plus. Aujourd'hui, on est à 50 groupes locaux dans toute la France, et ça continue tout le temps de grossir, donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très stimulant. Zero Waste France a créé le premier festival Zero Waste. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler du festival Zero Waste? Alors, il y a eu une première édition qui était il y a 2 ans, et il y a eu 5000 personnes qui sont venues pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers, il y a eu des débats, et c'était vraiment des ateliers DIY, on pouvait, pardon, do it yourself, faites-le vous-même, où on pouvait apprendre justement à faire son compost, son lombricomposteur, réparer une machine à laver, ou faire un produit ménager. Et la volonté a été de pérenniser en fait cette dynamique qui avait été très très forte, et c'est pour ça que a été créée la Maison du Zéro Déchet, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est dans le 18e, 3 rue Charles Nodier, à côté de Montmartre, vers le marché Saint-Pierre, merci. Et en fait, c'est un petit festival permanent, dans le sens où il y a une boutique zéro déchet où on peut acheter toutes sortes d'objets durables pour faire place, justement, remplacer les jetables. Et ça va de la gourde au shampoing solide. On n'a pas beaucoup parlé de petites choses comme ça, mais il existe des tas de petites chose qu'on peut changer. Par exemple, on peut se mettre au shampoing solide qui prend la forme d'un savon, et on se savonne les cheveux comme ça, et ça marche très bien. Regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ce que j'utilise. Mes cheveux sont toujours là et ça va bien. Et vous, il y a un très grand choix de produits dans ce sens-là. Il y a également des ateliers qu'on peut faire sur place, des débats et des conférences qui se font là-bas, et c'est le siège nouveau de Zero Waste France. Et dans la suite, cela nous amène à parler du défi Rien de Neuf. Je te passe la parole.
Merci. Alors là, je parle du défi. On n'en voit pas la vidéo, là.
Comme tu veux.
Non, on l'en voit pas. Merci pour l'instant.
Non.
Alors, donc, Zero Waste France a aussi organisé donc, le festival, la Maison du Zéro Déchet, et aussi le défi Rien de Neuf, en 2018. Alors, pourquoi ce défi? On nous pose souvent la question, mais par quoi il faut commencer pour devenir zéro déchet? Alors là, d'une personne à l'autre, ça peut changer. Ce qui est facile pour quelqu'un va être plus compliqué pour l'autre. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est de suivre son envie. Et pour, comme ça, sera plus facile pour la motivation. Et on dit quand même qu'il y a trois actions qui ont des forts impacts. Il y a composter, on en a parlé déjà, acheter en vrac, où il y a vraiment des effets visibles sur la poubelle. Et le troisième, c'est éviter l'achat neuf. C'est pour ça qu'en janvier 2018, Zero Waste a lancé ce défi. Et c'est un grand challenge collectif. Est-ce que quelqu'un a entendu parler du défi Rien de Neuf pour 2018 dans la salle? 4-5 personnes. Et il a eu un succès au-delà de toutes les espérances, puisqu'il y a 14 000 inscrits. Vraiment, au moment où on a lancé le défi, on ne s'attendait pas à un tel succès, puisque un nombre d'inscrits pareil, c'est un succès. Et on s'engage dans le défi à systématiquement rechercher une alternative aux produits neufs. Alors, c'est vraiment chacun le fait librement, hein, le défi. Et pour éviter les produits neufs, on peut faire de la location, achat d'occasion, prêt, réparation, don, mutualisation, aller emprunter chez ses voisins. Donc la nourriture et les produits d'hygiène ne sont pas concernés. Et donc pourquoi ce défi? Notre consommation de ressources n'est plus soutenable depuis les années 70, comme le disait Odile tout à l'heure. La consommation moyenne d'un Français a une empreinte de 12 tonnes par an. Et ça fait une pression sur la planète, c'est plus durable.
Alors, tout à l'heure, j'ai dit 50 tonnes. Alors, moi, j'ai des chiffres de l'ADEME et du CNID. Alors,
moi, c'est du défi Rien de Neuf, là.
Voilà, bon. C'est entre les deux, probablement.
Mais en tout cas, on était d'accord sur les années 70. Enfin, tu avais dit années 86.
86, c'était 86. La dernière date d'équilibre.
Donc, il existe de nombreux moyens de réduire cette pression, rendre nos modes de production plus sobres, allonger la durée de vie de nos objets, parce que là, on est vraiment dans la société du jetable, il y a vraiment un dérapage, et réduire notre consommation de produits neufs. Parce que le neuf, à chaque fois, on extrait des matières premières. Et c'est une transformation qui est coûteuse en énergie, en eau, en transport, qui est souvent intercontinentale. Les avantages du neuf, c'est que ça permet de créer des emplois et de l'activité locale. Et il y a des objets qui, dès la conception, sont difficilement réparables. Leur durée de vie est raccourcie de manière artificielle. C'est l'obsolescence programmée, qui est maintenant un délit. Donc, les consommateurs ne veulent plus de cette frénésie de renouvellement perpétuel. Le projet et Zero Waste, on tient à rester indépendant sur... Donc, on ne demande pas de subvention. Pour faire le projet, il y a eu l'emploi d'une salariée pour gérer le défi, parce que s'il y en a qui sont inscrits, on était tous inscrits au défi, là. On recevait une lettre hebdomadaire qui nous donnait des informations et des adresses.
Oui, sur le site Le Défi Rien de Neuf, il y a plus de 100 sites de référence qui peuvent permettre de trouver des alternatives. C'est une mine d'informations, comme le site de Zero Waste France d'ailleurs.
Et on brigue pour l'année prochaine 100 000 inscrits, donc participez.
Ouais, vu le succès, l'objectif c'est 100 000 inscrits pour 2019. Donc il va continuer. Pardon ? Ah oui, il y a une petite vidéo là qui circule sur le net.
Une campagne de crowdfunding pour justement créer ce prochain défi augmenté. Et rassurez-vous, si vous allez dans le défi Rien de Neuf, il n'y a pas d'inspecteur et on a le droit à quelques exceptions. On a le droit de craindre.
Nous, dans notre famille, chacun produit 10 kilos. Je fuis le jetable et j'essaie d'être dans le réutilisable le plus possible. Je regarde dès l'achat comment les produits sont emballés et je cherche des produits non emballés. Dans la démarche zéro déchet, comme j'emballe moi-même les produits, j'ai besoin à tout moment d'avoir des bocaux. Pour les fruits et légumes, j'ai un abonnement à une AMAP et je viens directement avec mon cabas. J'ai fait des sacs en tissu. J'ai besoin d'une entre 20 et 30 sacs à vrac pour fonctionner correctement. Le plus compliqué, c'est de changer d'habitude, faire une pause, de regarder ce qu'on fait, de remettre en cause toute notre consommation et de repartir sur des nouveaux produits. Pour les produits ménagers, je suis très contente d'avoir trouvé un liquide vaisselle en vrac qui me convient. Donc je remplis cette bouteille et je fonctionne en boucle avec ces deux bouteilles depuis presque 4 ans. Ah oui, alors le produit phare dont que je consomme beaucoup, c'est le vinaigre blanc. Il me sert d'adoucissant pour le linge et je fais mes produits ménagers avec. Quand on mange des agrumes, on les met dans du vinaigre blanc. Je mets la date. Et 3 semaines après, je filtre et j'utilise le vinaigre pour faire un produit ménager. J'ai une brosse à dents où je ne jette que la brosse et je garde le manche. Et ça, c'était important pour moi. Je ne supportais pas de jeter une brosse à dents tous les 3 mois. J'ai trouvé une créatrice qui crée des crèmes zéro déchet, c'est-à-dire que je lui ramène les pots une fois que c'est consommé. Je lui prends aussi un mascara, un shampoing zéro déchet pour cheveux secs. Et ça, il y a vraiment de plus en plus de solutions. C'est de plus en plus simple. Et j'espère que le zéro déchet va sortir de sa confidentialité et que les offres vont s'élargir.
Alors, c'est une vidéo qui a été tournée chez moi en décembre et il y a eu. Ça a beaucoup circulé, elle a fait plus de 1,6 million de vues. Donc, on était contents que ça. Qu'il y ait autant de partage et de vues. Et moi, je voulais dire juste un mot personnel. Je voulais dire que réduire ses déchets, c'est possible. Pour chaque produit, il y a souvent plusieurs solutions. Que c'est un mode de vie économique. Moi, ça a branché sur ma créativité. Ça m'a fait réfléchir. J'ai trouvé ça très sympa à faire. Et ça permet de préserver les ressources et de réduire les pollutions. Et pour faire ce défi, comme pour le défi Rien de Neuf, il y a 60% des participants au défi qui se sont mis à faire de la couture, de la réparation et à se réapproprier quelques petits savoir-faire. Très sympa à faire.
Alors, on vous a parlé, on va finir rapidement pour vous passer la parole, et si vous avez des questions. On vous a parlé des groupes locaux comme ça, qui s'étaient formés. Le groupe local de Paris compte aujourd'hui 200 membres actifs, avec une énergie très, très sympathique. Comme vous pouvez voir, des chiffres incroyables sur Facebook, Instagram et compagnie. Et il y a toutes sortes de groupes de travail celui qui a envie de se mettre sur une thématique peut se dire bah, tiens, moi j'ai envie de faire ça, et demande aux autres si quelqu'un veut le rejoindre. Et on vous cite par exemple ici l'exemple du groupe de travail sur les enfants à l'école. La campagne sac à vrac, c'est-à-dire qu'elle est pour les commerçants, le groupe de travail commerçant, où chacun, on va démarcher en fait les commerçants près de chez soi pour les inviter à coller un autocollant qui est celui-ci, disant voilà, ben ici vous pouvez venir avec votre contenant propre et ne plus avoir de contenant jetable. Et ici, vous avez notamment le guide zéro déchet au bureau qui a été fait en partenariat avec Zero Waste France et le groupe de travail sur la réduction des déchets au bureau. et également téléchargeable sur le site de Zero Waste France. Donc, un petit mot, c'est rejoignez-nous. Et rejoignez-nous déjà avec vos questions. Merci à vous.
Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation intéressante. J'ai pas compris, moi, la notion d'emploi derrière le zéro déchet, le 1-3-700, là. Parce que, est-ce que ça prend bien en compte tout ce qui a été dit, notamment par Odile, sur le fait que finalement, quand il y a quelque chose qui est produit, on pense pas à tout ce qu'il y avait avant, le sac à dos écologique, qui lui génère énormément d'emplois, alors qu'on disait que la décharge, c'est un emploi, mais en fait, c'est pas un emploi, c'est un emploi plus tous les emplois qui ont été faits pour générer le déchet qui est devenu déchet. Donc je ne sais pas comment c'est comptabilisé, et les 700, je ne vois pas comment, je vois pas le rapport entre le 700, le 3 et le 1, en fait.
Alors, tu voulais intervenir.
Alors, non, ça ne prend pas en compte l'ensemble des emplois qui sont nécessaires pour la production de l'objet, donc tout ce que j'évoquais en amont sur l'extraction des ressources, leur transformation, leur emballage et leur transport. En revanche, c'est calculé par rapport à une masse X de déchets à traiter. Pour cette masse, il faudra donc un emploi, c'est un emploi en décharge, 3 en incinérateur et combien 20 25 dans les filières de tri et de recyclage. Et pour la même, donc pour cette même masse de déchets, si on avait opté un mode de vie durable avec des objets qui n'avaient pas la même fin de vie, on aurait donc produit 700 emplois parce qu'on n'aurait pas généré ces déchets-là. Voilà, je ne sais pas si je suis un peu plus claire.
Il y a une petite une documentation qui n'est pas inintéressante, justement par rapport à l'incinérateur d'Ivry dont on parlait tout à l'heure. Zero Waste France a proposé, l'incinérateur d'Ivry, je crois, coûte à peu près 2 milliards d'euros. Au passage, ça correspond à 4 fois Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport qui devait être construit en prix. Et Zero Waste France et le collectif 3R a créé le plan BOM, B-O-M, baisse des ordures ménagères, qui coûterait 200 millions, et qui générerait à lui seul quelque chose comme 600 000 emplois. Je me trompe peut-être sur les 600 000, mais je crois que c'est ça. Et donc, c'est pour montrer qu'au lieu de détruire, on peut faire développer des tas de métiers qui sont générateurs d'activités et pas détruire des ressources qui valent de l'or.
Et dans le cas d'un mode de vie durable, ces 700 emplois sont locaux et de proximité, à la différence des emplois qui pourraient être mis en relation par rapport à un mode de vie jetable, où ça se passe généralement au bout du monde. Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Vous avez parlé des déchets qui sont faits avant qu'on ait le transport, l'emballage, avant que ça arrive dans nos mains. Tout ce qu'on achète en vrac, comment est-ce qu'on peut se renseigner, savoir un peu justement l'impact écologique que ça a eu avant d'arriver chez nous ? Parce qu'on les achète sans l'emballage, mais finalement, il y a peut-être eu plein d'autres déchets qui ont été générés avant. Je pense notamment à, acheter des noix de cajou en vrac qui viennent peut-être du Brésil. Il y a eu tout le transport pour arriver jusqu'à chez nous. Je suppose que ça a quand même été emballé à un moment dans des paquets qui sont plus gros. Entre ça et acheter, des pommes qui nous sont données dans un sac en plastique, mais par des pommes qui ont poussé juste à côté de chez nous, c'est parfois difficile de savoir vraiment l'achat responsable en se basant uniquement sur l'emballage qu'on voit en magasin. Donc je ne sais pas si que vous avez des conseils sur comment se renseigner, peut-être des sources d'informations là-dessus.
Je pense que c'est à chacun de mettre le curseur là où il le souhaite. En toute chose, il y a plusieurs manières de l'envisager. C'est comme pour le bio, il y a du bio local, du bio du bout du monde, du bio sur-emballé, du bio congelé. Enfin, c'est à chacun de trouver ce qui va correspondre à ses aspirations et pouvoir aligner son mode de vie avec ses convictions. Évidemment, acheter en vrac, ça ne réduit pas tous les déchets et ce n'est pas la solution toujours 100%. On limite déjà pas mal, mais c'est vrai qu'en consommant local, de saison et en direct du producteur, on réduit considérablement le problème encore. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de voie strictement officielle pour prendre les informations. Il faut interroger les distributeurs. Ce que je fais assez souvent, l'autre fois, j'allais chez Day by Day avec mon fils qui souhaitait de la pâte à tartiner au chocolat, qui était dans un seau de peut-être 5 à 10 kilos, donc en vrac, un seau de plastique. Alors que quand on l'achète au magasin bio, il est dans un pot de verre de 250 grammes. Donc en fait, je me demandais si par rapport à ce seau qui sera pas forcément recyclé, s'il ne valait pas mieux acheter finalement la pâte à tartiner normale au magasin bio dans son bocal de verre. Donc je n'ai pas la réponse. Voilà, c'est à chacun de mener ses petites enquêtes et de se faire une idée, d'essayer de placer le curseur au plus juste.
Alors, le zéro déchet, c'est aussi penser circuit court. Donc, on ne va pas chercher forcément les produits à l'autre bout de la planète, justement. Et dans le vrac, il n'y a pas que des produits qui viennent à l'autre bout du monde. Ils essayent de raccourcir les circuits au maximum. Et c'est là qu'il y a le moins de déchets, quand on peut visualiser la chaîne intégralement, la chaîne de transport du producteur au consommateur. Et que, par exemple, moi je suis dans une AMAP, parce qu'évidemment il y a beaucoup de critiques sur le zéro déchet, on me dit oui mais c'est pas vrai, tu génères quand même des déchets, mais à l'AMAP, le circuit, vous connaissez, tout le monde sait ce que c'est une AMAP ? Une association où on va chercher nos légumes toutes les semaines, un abonnement, et le producteur de légumes est à 25 km, et on arrive tous avec nos sacs, et on se fait remplir nos sacs, et lui, il ramène ses cagettes, et il est re-rempli la semaine d'après. Donc il y a vraiment des circuits zéro déchet, ça existe.
Je rebondis juste sur ce qui a été dit, c'est qu'il faut en effet faire preuve de beaucoup de... Il faut être rationnel, parce qu'après, on peut être un petit peu découragé par le mouvement zéro déchet en se disant, tiens, mais c'est pas cohérent, donc c'est pas fiable. Par exemple, on peut trouver au niveau des cosmétiques, finalement, il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire et qui disent, bon, bah, faites vos cosmétiques vous-même, puis faites-les avec de l'huile de coco. Voilà, ben, ça, c'est une consommation qui, pourtant, peut être vraiment, vraiment contestée et vraiment questionnée. Donc, c'est là, en effet, alors qu'il y a les meilleures intentions du monde, on peut aller à contre-courant. Et donc, c'est là où il faut faire preuve de raison et puis prendre le temps de s'informer. Voilà.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, le zéro déchet, c'est un absolu, c'est une direction. Et il faut le faire aussi avec, j'insiste là-dessus, mais avec pour se faire plaisir. Surtout quand on est dans la démarche, il faut d'abord aller vers les gestes qu'on a envie de faire, et puis essayer, et puis parfois se tromper, et puis revenir, et puis ne pas culpabiliser non plus, parce que, voilà, en se disant, parfois ça peut être on peut le prendre comme un jeu, est-ce que je vais prendre ça ou est-ce que je vais prendre ça ? Pas que ça devienne non plus trop des nœuds au cerveau.
Allez, une petite question, vous avez gardé plein de temps pour vous.
Enfin, j'ai une toute petite question, donc il y a un bocal devant vous et je m'étais
demandé. Oui, alors si voilà, assez souvent les conférenciers Zero Waste viennent avec leurs bocaux, donc j'ai pris ma poubelle. C'est en fait chez moi, donc nous sommes quatre et on a chacun un bocal, on fait poubelle à part. Ce qui permet de visualiser véritablement ce qu'on produit chacun, sachant qu'on n'a pas les mêmes priorités. Pas les mêmes objectifs. Mes enfants sont motivés, mais ils ne sont pas non plus complètement à fond tout le temps. Donc on peut avoir un coup d'œil réaliste sur ce qu'on produit. Donc ça, c'est 3 mois de mes déchets. Sachant que j'ai rempli le dernier quart juste tout à l'heure parce que je suis allée au pressing chercher ma chemise et que j'ai eu une énorme bosse de plastique. Donc en fait, ça m'a eu les 3 cm du haut. Là, c'est juste ma chemise de ce soir. Pour le reste, j'ai été malade. Il y a quelques pansements, il y a des médicaments. Comme je vous le disais, les blisters de médicaments, le thermocollé, plastique alu, on ne peut rien faire avec ça. Des sparadraps, des emballages de tofu, parce que ça, c'est un de mes péchés mignons et j'y renonce pas encore. Ce que je voulais dire à propos de ce bocal, donc en fait, il y a quelques années, j'ai fait vraiment mieux. Mais en fait, maintenant, franchement, je ne fais pas spécialement d'efforts. Même, en fait, je me prive de rien. Et en me privant de rien, je fais cette quantité de déchets. Donc en fait, le déchet, c'est une habitude. Hein. C'est une habitude d'en créer parce que voilà, c'est culturel. Donc on peut tout à fait faire autrement et sans se casser beaucoup la tête.
Oui, je ne sais pas si c'est une question parce que moi aussi je fais partie de Zero Waste, donc je connais un peu. Et je voulais juste dire que on l'a évoqué, vous l'avez déjà évoqué, mais Zero Waste c'est un mode de vie individuel, c'est au bureau, mais c'est très important que ce soit aussi une société Zero Waste. D'ailleurs, même le ministère de l'écologie a lancé il y a quelques années territoire zéro déchet pour les collectivités, et il y a beaucoup de mairies en France, beaucoup en Italie qui se sont dit zéro déchet. Donc il faut sortir, je veux dire, parce que souvent on a une vision qui est seulement individuelle, mais évidemment on ne peut pas, pour utiliser un gros mot, sauver la planète tout seul. C'est important aussi qu'évidemment ces changements soient faits à l'échelle de la ville, évidemment d'une nation entière, de la planète. Donc c'est dire que voilà, le zéro déchet, c'est... Là, on a pris des exemples, disons, plus à l'échelle personnelle, mais évidemment, on a la même chose au niveau... De la gestion qui devient aussi prévention de déchets au niveau de la ville.
Merci Salvo, tu aurais dû venir avec nous. Donc oui, c'est vrai, notre objectif il est lointain, il est peut-être incertain et on ne peut pas individuellement maîtriser sa complète réalisation, mais dans tous les cas, et on l'attend de cette société zéro déchet dont on rêve, auquel on aspire, faire ce choix individuellement, c'est extrêmement gratifiant. Et donc moi, en fait, mon objectif ce soir, c'était de vous convaincre. Donc j'espère que dès à présent, vous aurez vraiment envie d'abandonner le jetable et de vous entourer d'objets qui vous serviront durablement, d'objets que vous allez aimer, avec lesquels vous allez mener une vie plus légère, moindre impact environnemental et aussi une vie bien plus créative, une vie de liberté, d'avoir plus de libre arbitre. Voilà, j'espère avoir convaincu quelques-uns d'entre vous.
Pour rebondir sur ce que disait Salvo, effectivement, il y a des villes entières qui sont passées à une réduction de 80% de leurs déchets. On peut citer notamment une ville qui s'appelle Capannori, qui a été pionnière en Italie, une petite ville, mais ça s'adresse également à des grandes villes. Enfin, des grandes villes ont suivi ce chemin, et Los Angeles, San Francisco, a réduit justement de 80% ses déchets, ce qui est quand même colossal. Et il s'apprête à aller vers les 90. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en route. En France, il y a des villes comme Roubaix qui font des efforts très, très forts dans ce sens aussi.
Oui, bonsoir. J'avais une petite question. En fait, je me présente, Gaël. Je suis venu donc à la conférence écouter le pourquoi pas vous par rapport au zéro déchet. Moi, j'ai travaillé dans la gestion territoriale des déchets. J'ai travaillé aussi dans des collectivités. Donc, je vois qu'à certains niveaux, dans beaucoup de collectivités, on n'a pas cette notion du réellement responsable avec beaucoup de matière. Est-ce que l'État vous propose aussi ou vous demande aussi des aides? Parce que je pense que là, c'est l'État qui aurait peut-être besoin d'apprendre aussi à faire zéro déchet. Des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises quand même qui font du déchet. Dans les chiffres, là, on voyait 340 millions de tonnes, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Hein. C'est, les chiffres de 2012, ils ont grimpé. Moi, je sais que j'ai vu les chiffres 2014, tout ça. C'est là où c'est étonnant. C'est que nous, on doit faire les efforts. Et c'est vrai que c'est souvent les politiques qu'il faut arriver à bousculer, quoi. Parce que dans ce sens-là, je trouve que les politiques n'impliquent pas dans les collectivités, dans les fonctionnements des entreprises, un zéro déchet. Et c'est pourtant important. Là, on parle vraiment de choses importantes. C'est pas un gadget, quoi, en fait. Pour tout ce qui est déchets plastiques, entre autres, pour moi, c'est plus un gadget. C'est-à-dire que la mer, elle est pleine de plastique. C'est déjà tard de le constater maintenant, quoi. Ça fait quand même, c'est pas nouveau. Ça fait quand même 20 ans qu'on dit qu'il y a, une ligne autour du plastique qui n'est pas claire. Et j'ai travaillé sur le recyclage des plastiques aussi. Les trois plastiques recyclables, c'est un scandale. Tout le plastique qui est produit en France, il y en a 6 qui est recyclé. Tout le reste est produit. Et c'est un des plus gros producteurs en Europe de plastique. Donc, il y a des questions quand même qui sont, pour moi, d'État politique, très profonde. On a laissé se développer des choses. Et c'est là où, pour moi, les collectivités, le Zero Waste, il est très important, mais qui devrait être, quelque part, proposer des manuels, un peu, pour expliquer dans des collectivités que y a des choses qui ne se font plus depuis 50 ans, mais ça continue dans certains endroits. Donc c'est toujours ça qui est pas évident, quoi. Après, chacun individuellement, on se voit par rapport à sa poubelle. Moi, je le vois par rapport à des collectivités où ça dépasse. Il vaut mieux le voir individuellement et savoir déjà ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un bon exercice, déjà. J'essaye chez moi de prendre cette optique-là. Mais c'est vrai que c'est les collectivités aussi qui devraient aussi, quelque part, avoir un manuel pour leur expliquer qu'il y a des choses à faire, quoi. Moi, je trouve que le débat pourrait aller encore plus loin, mais c'est voilà.
Oui, bien sûr, tout peut aller plus loin. C'est à chaque échelon qu'il faut agir, que ce soit les collectivités, les entreprises. Et un peu partout, il y a des personnes sensibilisées au zéro déchet et des fois qui n'essayent même pas d'agir parce qu'elles se sentent un peu isolées. Et l'objectif de Zero Waste, c'est de regrouper toutes ces énergies, de les fédérer et que tout le monde à y en parler, qu'il soit à son travail, dans sa collectivité, tout doit bouger de partout. Et il ne faut pas qu'on oppose les échelles d'action parce que toutes sont importantes. L'échelle citoyenne, l'échelle au niveau de l'entreprise, au niveau du rôle politique, partout, tout doit bouger.
Alors c'est le rôle justement aussi de Zero Waste France au niveau national que de faire du plaidoyer, plus que parfois ils sont partenaires, mais ils sont souvent justement à aller essayer de forcer la main pour que les choses évoluent. Salvo, peut-être que tu veux dire un mot là-dessus, parce que tu es au conseil d'administration de Zero Waste France, et au niveau national, je ne sais pas si tu veux, mais... Et au niveau régional, c'est effectivement les groupes locaux qui commencent à prendre le relais aussi.
Oui, effectivement, l'association Zero Waste France, donc, qui après a fait des petits dans les groupes locaux, a eu toujours pour vocation donc, de faire bouger les lignes, les plaidoyers au niveau municipal. Nous, on fait partie, et par exemple, d'un comité de suivi du plan de prévention de déchets ménagers de la ville de Paris, mais aussi, évidemment, au niveau national. On fait ce qu'on appelle techniquement du lobbying. Comme les lobbying, on utilise les mêmes mots parce que c'est la même technique, sauf que nous, on ne vise pas à défendre nos intérêts, mais l'intérêt... Hein? contre-lobbying, oui, on pourrait dire du contre-lobbying, oui, donc défendre les intérêts de la planète. Donc oui, ça c'est une mission fondamentale, donc c'est parmi les premières depuis tout le temps. Et par rapport à, disons, pour répondre à une partie de votre question, là on a parlé effectivement des modes d'emploi aussi à l'échelle individuelle, donc les zéro déchet au bureau, les zéro déchet, l'événementiel zéro déchet. Mais il y a 3 ou 4 ans, un des premiers livres que Zero Waste France a édité, c'était les scénarios zéro déchet, qui s'adressaient plutôt à l'échelle collective de la ville. Et c'était un des premiers... Voilà, ah, très bien. Voilà, on est déjà à la deuxième édition.
Il existe le manuel, en fait.
Voilà, ça existe. Donc, c'est les scénarios zéro déchet, c'est déjà la deuxième édition. Et il est déjà à la deuxième édition. Et... ça me permet aussi de rebondir sur une chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque année, on, pour financer ces projets un peu plus larges, disons, de nos activités quotidiennes, si on peut le dire, on fait des campagnes de crowdfunding. Donc, par exemple, une des premières, c'était pour financer l'édition de ces livres. Après, on a fait une deuxième qui était pour financer l'ouverture de la maison du zéro déchet. Et les défis, le crowdfunding, les financements par les bas de cette année, c'est justement soit un défi rien de neuf à une échelle qu'on vise 5 000 personnes et pour 2019. Donc on veut multiplier les outils de communication, d'information du site. Et voilà. Donc, bon, si je me permets, je vous invite à contribuer à ces crowdfunding. C'est à la fois c'est pour un projet, mais il y a un retombé, disons, personnel pour les gens qui sont sensibles, parce que comme justement on évoquait, on permet de créer un site avec plein de référencements pour justement répondre à des questions, savoir concrètement où aller pour réparer quelque chose ou acheter d'occasion ou en vrac. Donc voilà, c'est très... On crée un réseau, bien sûr, aussi, oui, qui est un peu... Les modes défis permet.
Sur la question du changement d'échelle de l'individu aux collectivités, etc., je voulais juste dire rapidement qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact important de... l'impact collectif de l'individu, c'est-à-dire que l'on sait tous que les choix des consommateurs vont influencer les décisions des personnes qui vendent les produits. Votre vote est très important. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut que vous votiez, mais vous avez aussi, dans cette démocratie, la possibilité de voter pour certains choix plus que d'autres et de faire remonter les informations. Voter pour le budget participatif, voter pour, par exemple, des projets plus écologiques que d'autres, c'est faire remonter votre choix auprès des collectivités. Il y a plein de choses liées à l'investissement, l'engagement citoyen, on dit, qui peuvent justement aider à ce changement d'échelle. Voilà. Donc c'est en effet, comme disait Tristan, faut pas opposer individus, collectivités, etc. Dans les administrations, ce sont des individus. Dans les entreprises, ce sont des individus. Et donc, faut sensibiliser tout le monde.
Est-ce qu'on a une dernière question ?
Oui, bonsoir. Je suis éducatrice spécialisée, je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs qui accueille à peu près 230 à 40 personnes, des hommes et des femmes de 18 à 25 ans. Parfois, j'ai l'impression que malheureusement, on peut dire oui, le zéro déchet, c'est propre à certaines personnes qui pourraient être bobos ou ce genre de choses, alors que finalement, le simple fait d'être citoyen devrait faire qu'on soit sensible à cette question-là, je crois. Et je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire pour démocratiser ça auprès d'un public qui serait peut-être pas forcément averti à la base. Est-ce que les supports, par exemple, la vidéo Greenpeace, est-ce que c'est en ligne? Est-ce qu'on peut les réutiliser? Est-ce que vous avez des documents qui seraient ludiques, un peu pédagogiques? Donc ça, c'est une première question. Et puis, par où est-ce que je pourrais commencer, même si vous disiez que c'est propre à chacun, et voilà, mais peut-être un petit point de départ, je ne sais pas. Enfin, voilà. Alors, merci.
Au départ, le premier angle d'attaque et le meilleur, généralement, c'est de donner envie. Donner envie en montrant ou en laissant voir ce qu'on fait, et qu'il faut réaliser que le zéro déchet, c'est pas un mode de vie monastique, c'est vraiment beaucoup plus de raffinement, beaucoup plus de... Les choses sont plus belles, sont l'objet de soins. Donc généralement ça interpelle, et souvent on me pose des questions avant même de savoir quelle est ma démarche. On me pose des questions pour savoir comment je fais, pourquoi j'ai ce genre d'objet, parce qu'ils attirent l'œil. Donc on peut interpeller comme ça. Après, on trouve sur le site de l'association, et il y a beaucoup de blogs, le blog d'Anne, mon blog, d'innombrables blogs traitent du zéro déchet, où on peut avoir beaucoup de ressources à partager, des tutoriels, parce que ça peut être aussi quelque chose de sympathique de partager la réalisation d'un produit qu'on va faire pour montrer que finalement c'est simple. Il y a aussi l'angle d'attaque pécunier. C'est vrai que c'est un mode de vie qui est bien plus économe qu'un mode de vie classique, conventionnel. On estime à 40% les économies potentielles lorsque l'on vit zéro déchet. Voilà.
Je pense que pour votre cas très précis, ce qu'il faut, c'est identifier d'abord quels sont les points où vous générez les déchets dans votre, je ne sais pas si c'est un institut, dans votre établissement, et puis y répondre un à un. Ça peut être par exemple dans les toilettes, ne pas utiliser du savon en plastique. Ça peut commencer très très simplement, et puis expliquer. Vous ne faites pas que des changements, mais après vous expliquez la démarche. Vous expliquez, bon bah maintenant on va plus mettre du savon plastique mais du machin pour ça, et du coup très lentement sensibiliser. Moi je pense que la sensibilisation, c'est déjà la première étape et la plus importante sur des choses très précises, faciles à implémenter. Et c'est de mettre une petite étincelle, de mettre une petite idée, de mettre une petite prise de conscience, ça c'est la première étape.
Margot, tu peux raconter, parce que toi t'as pris l'initiative dans ton entreprise de le faire. Comment tu t'y es prise au début?
Bah exactement comme ça. C'est toujours en cours, mais c'est d'abord d'identifier. Voilà, c'est prendre un papier, un crayon. Qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on jette, pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait trouver une alternative. Et puis après, une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est parler aux collègues, expliquer comment ça marche. Et puis après, remonter plus grande, d'échelle plus grande, faire des guides et dire voilà, vous pouvez avoir d'autres. Parce que chez nous, par exemple, il y a aussi d'autres gens qui organisent des événements chez nous. Donc maintenant, on leur donne nos clés. Pour organiser des événements qui soient beaucoup moins producteurs de déchets. Mais identifier les points où on produit du déchet, c'est la première étape.
Ça peut être bien aussi de prendre contact, de trouver les personnes qui vont être déjà, de créer un petit noyau de personnes qui partagent aussi vos préoccupations et qui vont avec elles, vous allez pouvoir commencer à mettre les choses en place. Le guide zéro déchet au bureau peut vous donner des clés aussi comme ça que vous pouvez télécharger sur zerowastefrance.org et ça vous donne différentes clés sur 12 actions qui peuvent être après calcables sur d'autres thématiques.
Oui, donc on a des manuels, le zéro déchet au bureau, mon campus zéro déchet et mon commerçant zéro déchet, disponibles en ligne.
Et je peux ajouter à tous ces bons conseils aussi qu'à la maison du zéro déchet sont organisés presque tous les mois des ateliers conférences s'appellent être ambassadeur zéro déchet. Et donc je pense que dans votre cas ça serait très utile parce que dans le cadre de je sais pas quelques heures vous pourrez acquérir les outils pour justement transmettre à d'autres personnes en plus que vous évidemment un changement vers cette démarche.
Merci. Et pour terminer, j'ajoute suite à votre question qu'on propose suite à cette conférence avec nos intervenants de ce soir un atelier jeudi 8 novembre, jeudi prochain, justement pour commencer une démarche zéro déchet. Cet atelier s'intitule « La boîte à outils du zéro déchet ». Et on commence par le ménage. Donc voilà, ça peut être une porte d'entrée. Il reste quelques places, n'hésitez pas à vous inscrire par mail. Merci beaucoup pour vos questions et merci beaucoup pour votre intervention. Bonne soirée.
Merci.
Merci.